Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous terminons notre étude sur le Décalogue, c'est-à-dire sur les 10 commandements. Nous allons étudier le 8e commandement. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@vanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. Le 8e commandement. Tu ne feras pas de faux témoignages. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il faut s'en tenir à la vérité, être digne de foi dans ses propos, dire ce que l'on pense vraiment, ne rien dire contre sa pensée intérieure, ne pas crâner, ne pas faire le matu-vu, ne pas se faire valoir, ne pas déformer la vérité en ajoutant des embellissements. Cela signifie aussi ne pas blesser l'honneur de son prochain, ne pas nuire à sa réputation par des calomnies. Dénigrer l'autre peut équivaloir à un assassinat spirituel. Il y a même des suicides provoqués par des atteintes à la bonne réputation. Toute personne a droit à l'honneur. Ce commandement nous exhorte aussi à ne pas clamer sur tous les toits ce qui nous a été confié en secret. Il faut donc garder pour soi les secrets professionnels et les confidences. Cela implique aussi qu'il est absolument interdit de faire de faux témoignages au tribunal. Le chrétien ne peut en aucun cas pratiquer la ruse, c'est-à-dire faire semblant de. L'hypocrisie et la duperie ne sont donc pas des vertus comme elles sont très souvent présentées dans le monde moderne, en politique, dans le monde des affaires, dans les masses médias, voire dans les relations personnelles. Mais elles portent gravement atteinte à toute relation interpersonnelle, même plus. Les péchés qui ont trait au mensonge sont un grave outrage à l'amour de Dieu et du prochain. Pourquoi tout cela? Car le mensonge consiste à dire des choses contre son cœur, contre sa pensée intérieure, comme nous venons de dire. C'est la ferme volonté de déformer la vérité dans un but nocif. Avec chaque mensonge, je ne fais pas seulement tort au prochain, mais je fais aussi du mal à mon âme. Or, le mal se tourne toujours contre moi-même. En mentant, je perds tout crédit, toute confiance auprès de mon prochain. Mais tous ces péchés qui se commettent avec la langue ne nous frappent même plus, tellement ils sont monnaie courante. Saint Jacques déjà nous met en garde contre la langue, ce membre minuscule qui pourtant peut faire tant de mal. La langue est un feu, c'est le monde du mal. Cette langue, placée parmi nos membres, elle souille tout le corps. La langue, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Épître de Saint Jacques, chapitre 3, versets 5 et suivants. Quelle est l'attitude de Jésus devant le mensonge? Jésus a le mensonge en horreur, car c'est Satan le père du mensonge. Satan qui a induit en erreur Adam et Ève et qui tâche d'entraîner tous les hommes dans sa chute. Pourquoi? Satan qui, dès le début, est ennemi de vérité. Relisez le chapitre 8 chez Saint Jean. Il, donc Satan, était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Or, Satan est adversaire acharné du Christ, qui dit de lui-même qu'il est la vérité, car en lui, la vérité de Dieu s'est manifestée tout entière, à savoir celle que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé par lui. Conférez aussi le chapitre 12 de l'Apocalypse, où le dragon tente de dévorer l'enfant à naître, tentative déjouée par Saint Michel, mais qui entraîne la chute d'un grand nombre d'anges. Donc, dès le début, Satan s'acharnait contre l'incarnation, c'est-à-dire contre le fait que Dieu allait prendre une nature humaine. Tous ceux qui professent alors que Dieu ne s'est pas fait homme agissent donc contre la vérité, mais souvent à leur insu. Professer que Jésus n'est pas fils de Dieu et donc contre la vérité est un mensonge dont l'auteur est Satan. Il ne faut pas oublier que derrière tout mensonge se cache un esprit diabolique. Or, avec chaque mensonge, on se met un peu plus sous le pouvoir de Satan. Mais si nous voulons suivre Jésus, il faut donc bien faire attention à rester tout limpide, tout transparent dans nos propos. Nous sommes strictement tenus à fuir toute duplicité, toute simulation, toute ruse et toute hypocrisie, tout mensonge. Résumons, quels sont les péchés proprement dits contre le huitième commandement ? Ce sont d'abord le faux témoignage, le parjure et le mensonge. Il est même défendu de mentir par plaisanterie, ce qu'on appelle un mensonge joyeux. Le huitième commandement nous interdit en plus tout jugement téméraire, la médisance, la diffamation, la calomnie qui diminuent ou détruisent la bonne réputation et l'honneur auquel toute personne a droit, la flatterie, l'adulation et la complaisance. Toute faute commise contre la vérité ne doit pas seulement être confessée à un prêtre, mais elle oblige aussi à réparation. Mais le chrétien n'est pas seulement obligé de dire toujours la vérité, il est de plus tenu de témoigner de la vérité évangélique dans tous les domaines de son activité publique et privée, même au prix du sacrifice de sa vie si cela est nécessaire. Il ne peut pas faire semblant d'abjurer sa foi seulement pour sauver sa peau. Renier le Christ est un très grave péché contre l'amour de Dieu. Le chrétien est donc obligé de témoigner de sa foi. Mais suivre le Christ nous procure la plus grande liberté, à savoir cette liberté intérieure qui est au-dessus de tout péché, au-dessus de toute tyrannie, au-dessus même de la crainte des hommes, au-dessus de toute couardise. Jésus nous promet lui-même que la vérité nous libérera. Conférez par exemple les dialogues des Carmélites de Georges Bernanos ou la timide Blanche de la Force, après avoir paniqué toute sa vie, monte sur l'échafaud la dernière en glorifiant Dieu. Lisez la vie des martyrs de la Révolution, ou lisez la vie bien documentée des martyrs modernes, tels que le père Maximilien Kolbe qui donna sa vie à Auschwitz pour sauver celle d'un père de famille. Le mot martyr veut dire témoin, témoignage en grec. Chez les chrétiens, un martyr se laisse immoler pour témoigner de la vérité évangélique, pour témoigner de la divinité du Christ, du mystère pascal, c'est-à-dire de la passion et de la résurrection de notre Sauveur. Attention, un martyr ne tue pas d'autres personnes ou lui-même dans un exécrable suicide meurtrier, mais il se laisse tuer lui-même par amour de Dieu. Le proto-martyr, c'est-à-dire le premier martyr, c'était saint Étienne, qui fut lapidé par les Juifs pour avoir confessé sa foi en Jésus-Christ. Mais celui qui présidait à son martyr, c'est-à-dire à son témoignage, c'était un persécuteur féroce des premiers chrétiens. Et ce persécuteur féroce des premiers chrétiens s'est converti au christianisme et il est devenu le grand apôtre des païens, à savoir saint Paul. D'ailleurs, le sang des martyrs a toujours déclenché un renouveau de la foi et a entraîné d'autres conversions, comme l'atteste déjà Tertullien au IIIe siècle. Sanguis martyrum semen christianorum. Ça veut dire le sang des martyrs est la semence de nouveaux chrétiens. Depuis Saint-Étienne au Ier siècle jusqu'à nos jours au XXIe siècle, des milliers de martyrs massacrés par des mécréants, féroces et sadiques, ont jonché le chemin de l'Église. Mais leur mort s'est révélée fertile pour l'évangélisation et chaque sang de martyr versé pour le Christ a fait éclore d'autres conversions. Prions donc pour que le sang des martyrs versé au XXe siècle, qui fut vraiment un siècle de martyrs dans tous les continents, et jusque dans nos jours même, puisse porter ses fruits pour de nouvelles conversions. Il va de soi qu'un tel acte héroïque à savoir celui de donner sa vie par amour du Christ, vous ouvre immédiatement le ciel, comme nous le savons par saint Étienne, qui, avant d'être lapidé, vit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoutons ce que Jésus nous promet lui-même dans son célèbre discours sur la montagne. « Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Un dernier mot sur les moyens de communication sociale. L'information dans les médias doit être au service du bien commun. Elle doit être vraie, tout en sauvegardant la justice et la privacy, ça veut dire la vie privée, et la dignité de chaque individu. Et pour terminer, quelle relation y a-t-il entre vérité, beauté et art sacré? La vérité est belle en elle-même. Elle comprend la splendeur de la beauté spirituelle. C'est pourquoi les œuvres d'art devraient refléter cette beauté, puisqu'elles sont le fruit d'un talent donné par Dieu, une participation aux facultés créatrices de Dieu et le fruit de l'effort de l'homme. L'art sacré ne devrait donc pas choquer les fidèles, mais au contraire, les entraîner à glorifier le mystère de Dieu révélé dans le Christ et amener le fidèle à l'adoration et à l'amour de Dieu. Est-ce qu'il est permis de représenter le Christ? Mais bien sûr, depuis son incarnation, nous avons vu sa sainte face, et il peut même être représenté artistiquement, puisqu'il a laissé lui-même l'empreinte de son divin corps et de sa sainte face sur le linceul de Turin. D'ailleurs, ce linceul de Turin a joué un rôle décisif dans le célèbre iconoclasme qui avait pour but de détruire toutes les représentations du Christ. Grâce à l'image inexplicable du linceul de Turin, il a été formellement permis au IXe siècle de représenter artistiquement les traits de Jésus, de sa Sainte Mère et de tous les saints. Ainsi, mes chers auditeurs et mes chères auditrices, nous arrivons à la fin de notre réflexion sur le 10 commandements. Mais un catholique doit aussi observer les 5 commandements de l'Église, que je vais vous présenter la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute, et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois. Votre Véronique.